ancienne, là, encore le parachat à savoir, comme au tout début,
Comme au
comme au
tout
tout
début,
début.
hein? Non, non. Non, mais on aura des fois, on aura des petits chiourimes comme ça, coup de poing. Tov, Erev Tov les Koulam. On est reparti, on est reparti. Ça y est, on est après Shavuot. C'est la période, je le dis souvent, la période après Shavuot est une période très compliquée au niveau de l'étude de la Torah. Alors, c'est très vrai dans les années normales où il n'y a pas de corona. On va voir comment ça va se passer cette année, mais en général, c'est le moment où il fait beau et où les gens ils commencent à sentir les vacances. Et Bichlal, je te parle même pas de l'époque des vacances. Et donc, on a un peu tendance à être moins présent dans notre étude. Et c'est le moment, au contraire, où il faut se renforcer dans l'étude de la Torah. On est en plein milieu de ce qu'on appelle Zman Kait. Et donc, c'est parti. Et ça tombe bien parce que la paracha de Baalotecha, eh bien, est une paracha qui est là pour nous expliquer à quoi sert la Torah. À quoi ça sert la Torah? Bah, ça tombe bien.
On te voit mieux là.
On voit mieux là, c'est bien? À quoi ça
On
sert la
se voit mieux.
Torah? Ça tombe bien puisqu'on est juste après Mahamad Ar-Sinaï. Donc, on est juste après le moment où Dieu se dévoile à nous et donc, par la suite, va nous donner la Torah. Donc, à quoi elle sert? Eh bien, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la Torah, on doit la servir ou est-ce qu'elle est au service d'eux? C'est-à-dire, j'ai marqué comme titre du cours sur Facebook, sur le YouTube, le titre du cours, c'était Entre Torah et Israël. Ma question est la suivante. Est-ce que la Torah est au service du peuple juif ou le peuple juif doit servir et doit faire la Torah? Alors, vous allez me dire évidemment que le peuple juif doit faire la Torah. Bien sûr, ce n'est pas la question. La question est de savoir, est-ce qu'il peut y avoir un peuple juif sans Torah? Et de la même façon, est-ce qu'il peut y avoir une Torah sans l'existence du Ham Israël? Alors, qu'est-ce que vous répondez à la première? Qu'est-ce que vous répondez à la deuxième? Eh bien, pour ce qui est de la première question, est-ce qu'il peut y avoir une Torah? Est-ce qu'il peut y avoir une Torah sans le peuple d'Israël? Ça, c'est pour ce qui est de la deuxième question. Attendez, je vérifie juste une petite chose. Hop là, trop de fil, tu le files. Hop là. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une Torah sans le peuple juif? Et est-ce qu'il peut y avoir un peuple juif sans la Torah? Alors, là, prenons la première question. Est-ce qu'il peut y avoir une Torah sans le peuple juif? Eh bien, la réponse est non. Évidemment que non. Vous allez me dire, mais comment tu dis ça? La Torah a été créée avant le monde, Bichlal. Torah Kadma Laolam. Certes, Torah Kadma Laolam, mais dans la même phrase qu'on nous dit que Torah Kadma Laolam, que Tshuva Kadma Laolam, eh bien la question est posée dans le Talmud, Uma Kadma Lakol, eh bien on nous dit Ruach Nishmat Israël Kadma Lakol. C'est-à-dire que ce qui a précédé toute chose, y compris la Torah, eh bien c'est l'âme d'Israël. Donc, il y avait dans le monde des idées, évidemment. Il y avait le peuple juif alors qu'il n'y avait pas encore la Torah. Et dans le monde des faits, eh bien, il y a eu un peuple juif avant qu'on reçoive la Torah, puisqu'on est déjà un peuple juif en Égypte et on n'a pas encore reçu la Torah. Il y a des gens qui disent on est devenu un peuple juif à matin de Torah. La réponse est évidemment que non. On était déjà un peuple d'Israël en Égypte et aussi, ceux qui veulent retarder cela, eh bien, on dira quand on est sorti d'Égypte. De couler Alma l'obligé, quand on est sorti d'Égypte, on était un peuple, mais on n'avait pas encore reçu la Torah. En d'autres termes, la Torah est au service du peuple d'Israël. Moshe l'a compris extrêmement bien, à tel point que lorsqu'il arrive dans le livre de Shemot, lorsqu'il va redescendre après ses 40 premières journées où il va recevoir la première louchot, eh bien, il descend de la montagne, il voit que les Bnei Israël sont en train de faire le veau d'or. Et donc, il décide qu'il faut briser l'un des deux. Il y a à ce moment-là une stira, une controverse entre eh bien, le peuple d'Israël et la Torah. Et donc, il faut décider qui on casse, qui on garde. Et Moshe casse la Torah, garde le peuple juif. Et sur cette action-là, Dieu dira à la fin de la Torah, « Olechol ayad achazaka Asher Asa Moshe, Rashi dira, Yishar Kochacha Sheshibarta. Très bien que tu as cassé les Louchot. Parce que sinon, il aurait fallu casser Amisraël. Tout ceci, eh bien, nous ramène au début de notre paracha. Puisque le début de la paracha nous parle de la menorah. Nous parle de la menorah. Et la menorah, elle est très importante, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle représente ? Pourquoi la paracha nous parle d'Afka de la menorah et de la kata menorah et pas d'un autre kli du Beth Amikdash ? Vous me direz, mais ça, c'est parce que le Midrash nous explique que lorsque les Nessim, ils ont amené leur korbanot à Milouim, c'est-à-dire leur korbanot pour dire que ça y est, on commence l'inauguration du Mishkan, eh bien, Aaron s'est retrouvé sans rien avoir à amener. Donc, ça l'a énormément déçu. Et là, on lui a dit, Altidag, toi, tu as un autre tafkid. Et donc, on met en valeur le tafkid de Adlakat Amenorah en début de la paracha. Aval, on aurait pu dire, Altidag Aaron, tu as un autre tafkid, c'est Shulchan Lechem Apanim, de mettre les chalot, ou de rentrer au Kodesh HaKodeshim une fois par an. C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir plein d'autres tafkidim de Aaron pour lui dire, Altidag, toi aussi, tu as quelque chose à faire. Pourquoi Dafka l'Amenorah? Eh bien, Dafka la Menorah hein, nous explique le Rav Kook la chose suivante. Il nous dit Moshe Rabbeinu kolel u et kol nishmot Israël mitzad at Torah, u Mashiach u kolel otam mitzad atzman, mitzad marshavtan shel Israël akadma lakol. Bon, sans vouloir rentrer dans les détails, le Rav Kook fait une différence entre Moshe et le Mashiach, que chacun a un rôle différent à remplir. Que Moshe a le rôle de transmettre la Torah, alors que le Mashiach a le rôle de guider la Ouma, le peuple. Juste après, le Rav Kook, on est dans Shmoneh Kvatzim, dans le traité des huit chapitres du Rav Kook, au chapitre 8, paragraphe 157, où le Rav Kook nous explique la chose suivante. Il nous dit, la Menorah, qui est mentionnée dans le parasha de Baalotecha, est mentionnée, bien qu'elle soit moindre au niveau de sa Kedusha, que le Aaron abrite. Que l'arche d'alliance. Dit le Rav Kook, oui, elle est moindre à l'extérieur. C'est-à-dire, a priori, elle est moins puissante, moins kdosha que l'arche d'alliance. Parce qu'elle est dans le Kodesh, alors que l'autre est dans le Kodesh à Kodashim. Dit le Rav Kook, mais ce n'est qu'extérieur. Car en vérité, la menorah est beaucoup plus puissante dans son rapport à la Kedusha que le Aaron, Lama, eh bien, tout simplement parce que la menorah, yechola le'ahir bachutz gam ken. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que la menorah n'est pas cachée derrière le parochet, derrière le rideau qui l'empêche, qui nous empêche de la voir. La menorah, elle éclaire également à l'extérieur du Beth Amikdash. C'est donc beaucoup plus mechoubar à la Kedusha, lié à la Kedusha, lorsque tu peux, influencé à l'extérieur des murs du Beth Amidrash. Qu'est-ce qui est plus important? Un Talmid Chacham qui va enseigner dans son Beth Amidrash, mais que dès qu'il sort dehors et qu'il voit une fille en pantalon, il perd la boule? Ou quelqu'un qui est capable d'enseigner la Torah, même quand il est pas au Beth Amidrash? En d'autres termes, la menorah remplit une fonction fondamentale qui est la fonction de éclairer à l'extérieur. Mais ça ne s'arrête pas là. La menorah a également une autre fonction. Quelle est cette autre fonction? Eh bien, il y avait un miracle dans la menorah. Un miracle dans la menorah qui était présent depuis Moshe Rabbeinu et ce jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik. Quel était ce miracle? Eh bien, que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Et qu'est-ce que représentait ce miracle, nous dit le Talmud dans le traité de Shabbat? Eh bien, ce miracle représentait le fait que la Shrina résidait au sein du peuple juif. En d'autres termes, à quoi sert la menorah? Elle sert à nous montrer la kdusha intrinsèque du peuple d'Israël. Le Aaron Abrit, lui, sert à nous rappeler la Torah, puisque c'est là-dedans qu'on va mettre la Torah. La menorah nous rappelle la kdusha du peuple. Et il y a quelque chose d'assez intéressant. Vous allez me dire, il y a des raisons historiques, des raisons géostratégiques à ce que je vais dire. C'est vrai, Mais n'oubliez pas ce que disait le Rav Kook dans Orot Atria, chapitre 2, lorsqu'il nous parlait de l'histoire. Vous savez qu'en hébreu moderne, l'histoire, historia, eh bien on écrit Aleph, Samer, Tet, Vav, Resh, Yud, Hey. Historia. On a l'habitude, quand on a un mot en loisie, un mot pas en hébreu, qu'on le met en hébreu, eh bien le son T se traduit par un Tet. Seulement, le Rav Kook avait l'habitude d'écrire historia avec un Tav. Pour lui, historia, c'était Esther-ia. C'est-à-dire, l'histoire, c'était le moyen que Dieu avait de se dévoiler incognito. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est que ces raisons historiques et géostratégiques ? Bien, vous savez, le symbole juif par excellence, depuis 2000 ans, c'était la menorah. Le symbole d'Israël par excellence, avant, bien avant le Magen David, c'était la menorah. Et on peut se poser la question, pourquoi ce n'était pas l'Arche d'Alliance ? Vous allez me dire, parce que la menorah, on ne l'avait plus. Ben, l'Arche d'Alliance non plus, on ne l'avait plus. Depuis la fin du premier temple, Yoshiaou, roi de Judée, a caché la Ronabrite. Donc elle n'était pas non plus dans le deuxième temple. Non, mais vous allez me dire, non, mais ce n'est pas qu'elle n'était pas. C'est qu'elle a été volée par les Romains et qu'ils en ont fait un arc de triomphe. Enfin, sur l'arc de triomphe de Titus, ils ont mis en place la menorah. Moi, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai été à Rome, il y a, je sais pas, 2-3 ans, pour la première fois de ma vie, j'allais à Rome. Quand je suis arrivé au forum et que je me suis trouvé sous l'arc de triomphe de Titus, ah, mais j'ai pleuré. Ah, mais j'ai pleuré. Je te le dis. Mais pleurer de quoi ? Pas de tristesse, mais d'une reconnaissance incroyable à l'histoire et à ce que Dieu nous a fait traverser. Je voyais cette menorah de Titus qui montre comment lui, il a été malé gaava, plein d'orgueil à avoir réussi à détruire le Beth Amikdash et à avoir ramené comme trophée la menorah. Et je voyais mon passeport dans ma poche avec la menorah. Sur mon passeport, la menorah, symbole de l'État d'Israël. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, je ne sais pas si vous maîtrisez vos passeports. Oui, le passeport, c'est quelque chose, comme on dit, zatsal. Le passeport zatsal, puisqu'on ne l'utilise plus vraiment ces derniers temps. Mais quand vous regardez un passeport, bon, ça c'est un faux, hein. Ça c'est un faux, il n'y a rien dedans. Mais quand vous regardez un passeport, et vous regardez la menorah. C'est-à-dire ? Eh bien, cette menorah, cette forme, c'est la forme, je ne sais pas si c'est celle qu'il y avait au Beth Amikdash, mais du moins, c'est celle qu'on peut retrouver sur l'arc de triomphe de Titus. Et c'est donc ben, un pied de nez à l'histoire. Fantastique. En d'autres termes, la menorah s'est imposée pendant 2000 ans comme étant le symbole juif par excellence. Et donc, lorsque la paracha qui ouvre la Torah, puisque toute la paracha de Baalot Torah vient nous expliquer quelle est la dimension de la Torah, eh bien, on nous met bien en avant la menorah. Pourquoi la menorah ? Eh bien, pour que tu saches que la Torah est au service du peuple juif et non pas l'inverse. Maintenant, une fois qu'on sait ça, alors on dit, bon, très bien, alors la menorah est au service du peuple juif, Metsuyan, mais qui ? Qui a la responsabilité de transmettre la Torah au peuple juif pour qu'elle le serve ? Eh bien, c'est là qu'arrive la deuxième partie de la paracha, Anafat Aleviim. On prend les Leviim et on les secoue dans tous les sens. Bon, il y a fait, on met en place les Leviim. Et là, on ne peut pas ne pas se rappeler cette scène de Rabbi Jacob, bien sûr. Ah bah oui, quand Rabbi Jacob arrive rue des Rosiers et qu'il dit « Cher Rosenfeld, ah, cher Rosenberg, ah !» On se rappelle du fameux « cher Kacher » qui a fait un bide. Et après, il dit « Cette fois, je vais les avoir. »« Cher Levi, devant l'enseigne de Lévis. Cher Lévi, Nahon, misé. Misé qui est censé transmettre la Torah au peuple juif. Eh bien, ce n'est autre que Lévi. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Lévi doit transmettre la Torah au peuple juif? Eh bien, les amis, je vais vous expliquer. C'est très simple. Lévi, qui l'a appelé comme ça? Qui a donné le nom de Lévi à Lévi? Alors que dans le livre de Bereshit, quand on va regarder la parasha de Vayetse et qu'on va voir là-bas les naissances de tous les enfants de Yaakov, eh bien, à chaque fois, les choses sont très claires. C'est la maman qui donne le nom au bébé. Alken kara shemo Reuven. Pour ce qui est de Lévi, il y a marqué Apam yilave ishi elai. Alken kara. Non pas kara. Et là, kara. Et il l'a appelé Lévi. Alors on se dit quoi? C'est Yaakov? Rashi nous dit non, c'est pas Yaakov. C'est Ribono shel Olam. Dieu a donné le nom de Lévi à Lévi. Pour qu'il soit mitlavé, qu'il accompagne. Léa dans sa bouche, c'est pour que Yaakov l'accompagne. C'est-à-dire. Mais Dieu dans sa bouche, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'il accompagne le peuple juif dans sa connaissance de la Torah. Nous dit le Rambam dans Ilchot Avodah Zara, au premier chapitre. Le Rambam nous explique comment est-ce que Avraham a commencé à transmettre la Torah. Avraham, il a commencé à transmettre la Torah, Mitsuyan. Seulement, comment il faisait Avraham? Eh bien, le Rambam nous explique qu'Avraham, il faisait un cours. Il disait, voilà, ce soir, 21h, cours à Givat Shmuel, celui qui veut, il vient. Et donc, bah, le soir à 21h, il y avait, je sais pas, 10, 20, 30 personnes. Et Avraham est très, très content. Celui qui vient, kolakavod, baruch Hashem. Celui qui vient pas, tant pis. Yitzhak, il a repris l'affaire familiale. Lui aussi, il faisait des shiurim. Celui qui veut, il vient. Celui qui vient pas, tant pis pour lui. Aval, le Rambam nous dit... Une fois que Yitzhak, il a transmis le flambeau à Yaakov, et que Yaakov a vu, je ne me vois plus. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug technique. Ma caméra, elle dit, je veux. Non, 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 ça s'est mis tout seul, et la caméra, elle ne veut pas se remettre en marche. Elle a dit, je ne suis pas content, je n'ai pas envie que tu me vois. Hein?
Tu peux te déconnecter et te reconnecter, ça fait pareil. Sur le Jitsi, hein, pas sur YouTube.
Eh bien, très bien. Très bien. Eh bien, très bien. Très bien. C'est ce qu'on va faire. Je me déconnecte. Deux secondes, hein, excusez-moi. Nous. Le téléphone n'est pas content, bien sûr. Houston. Deux secondes. Alors là, le téléphone a décidé qu'il faisait ce qu'il voulait. Peut-être que là, ça va marcher. Voilà. Hop là, hop là. Toc. Les inconvénients du direct, messieurs, dames. Voilà, ça revient. Est-ce que ça revient? Ça revient! Ça s'en va et ça revient. Et c'est reparti. Tov, donc je disais, le Rambam nous explique que Yaakov, lorsqu'il a vu que chez lui, il n'y avait plus de psolette, c'est-à-dire que chez lui, il n'y avait pas comme chez papa Yitzhak, un monsieur qui s'appelait Esav, qu'il n'y avait pas chez lui comme chez papy Avraham, un monsieur qui s'appelait Ishmael. Chez lui, il avait 12 tribus qui étaient 12 tzadikim. Et donc, à ce moment-là, nous dit le Rambam, Yichedet Lévi. il a mis en place Lévi. Pourquoi ? Pour que Lévi soit le responsable que chacun de ses frères connaisse la Torah. Ce n'est plus maintenant je fais un chiour et celui qui veut, il vient. C'est je fais en sorte que tout le monde soit au chiour. Et s'il faut faire du porte-à-porte, je ferai du porte-à-porte. Et s'il faut parler un autre langage, parce que Réhouven, il aime bien entendre des blagues avant le chiour, mais Yehuda, il aime que ce soit Retsini, eh bien, je ferai un chiour Retsini, un chiour de blagues. Mais je dois être responsable que Am Israël Kulo ou Noté ou Mkabel Torah. C'est la différence qu'il y a entre ma femme et moi. Ma femme enseigne à l'école. Et donc, tous les gens qui sont dans la classe ont qu'une seule envie, c'est de ne pas être dans la classe. Donc, pour elle, c'est très dur à enseigner. Alors que moi, quand je fais un chiour, les gens qui viennent au chiour, c'est parce qu'ils ont envie d'écouter. C'est beaucoup plus facile. Donc, Lévi, il a une tâche très dure. C'est de faire en sorte que tout le monde soit mechoubar à la Torah. Maintenant, est-ce que c'est que M. Lévi qui doit faire ça ? Nous dit le même Rambam dans d'autres halakhot, dans Chot Rovel Mazik, que ce, pas Rovel Mazik, c'est Rav Shmita Yovel, que ce n'est pas seulement le Lévi qui peut faire ça, mais chacun qui a décidé de prendre sur lui le rôle du Lévi. Ça peut être toi, ça peut être moi, qui avons décidé de faire en sorte que Am Israël connaisse la Torah. À l'époque du désert, dans la paracha, c'est Lévi à l'origine. Et donc, une fois qu'on a expliqué que la Torah était au service du peuple juif, par l'intermédiaire de la menorah, eh bien maintenant, on va mettre en place les Lévi'im, qui sont les garants du fait que Am Israël garde la Torah. Tov, il a fait mode, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Ben oui, c'est bon. Il n'y a plus rien à dire dans la Torah, dans cette paracha extraordinaire. Eh bien si, évidemment. Parce qu'une fois qu'on a parlé des Lévi'im, alors regardez, deux secondes, je prends, excusez-moi, voilà, je prends mon petit chumash, bien sûr. Une fois qu'on a parlé des Lévi'im, eh bien regardez, hop là, deux petites secondes, c'est vraiment pas bien organisé cette histoire, hein. Voilà. Très bonne question. Et la réponse est non. Les Bechorot devaient remplir le rôle des Kohanim. Pas des Lévi'im. OK ? Donc les Lévi'im, tu peux le remplir si tu veux. Il n'y a pas de raison. Voilà. Une fois donc qu'on a terminé l'histoire des Lévi'im, eh bien, de quoi on nous parle ? Quel est le sujet qui vient dans la paracha direct ? Pessah Sheni. Bon, c'est sympa comme histoire Pessah Sheni, mais quel rapport ? Eh bien, Pessah Sheni, c'est la conclusion de tout ce qu'on vient de dire. Parce que Pessah Sheni, vous le savez, c'est la seule fête qui a un Moed Bet. Dans les autres fêtes, bah, si tu ne peux pas la faire, tu ne peux pas la faire. C'est pas grave. Tu le feras l'année prochaine. Aval Pessah, on te dit non. Il faut qu'on te donne une deuxième chance. Parce que ce ne serait pas possible d'arriver à Shavuot, c'est-à-dire pour le... Nous, on appelle ça Shavuot. Mais pour ce qui est d'Ebné Israël dans le désert, d'arriver à ce qui symbolise le moment où Dieu nous parle, si on ne s'est pas d'abord attaché à l'idée que Dieu parle à un peuple. Pessah, c'est la fête de, bah, tout simplement du rattachement à l'identité nationale d'Israël. Si on veut que Dieu s'adresse à nous, il faut d'abord qu'il y ait un « nous ». Et donc, il est fondamental qu'il y ait Pessah avant Shavuot. D'ailleurs, la Torah va nous dire dans Pessah Sheni qu'il y a deux possibilités de ne pas pouvoir faire Pessah. Quelles sont les deux possibilités pour lesquelles je ne ferai pas Pessah ? La première ? Quoi ? Alors voilà, si elle est Beder Rechoka, c'est-à-dire qu'elle est loin de Jérusalem, et la deuxième, c'est Tamé. OK? Maintenant, on nous dit Rabbi Avraham Azoulay, Baal HaChesed l'Avraham, si je ne me trompe pas, l'arrière-grand-père du Chida, ou l'arrière-arrière-grand-père du Chida, je ne me rappelle plus. Il dit, oui, celui qui est Beder Rechoka, ça veut dire Bagalout. Et celui qui est Tamé, ça veut dire Malé Averot. Donc celui qui est Bagalout et qui est Malé Averot, Azoulay Chola Sota Pesach. Mais, nous dit Rabbi Avraham Azoulay, mais celui qui Bederech Loaya, Veareu Tahor, Vechadal la Sota Pesach, Venichreta Anefeshaï Mehamea. C'est-à-dire, si tu prends quelqu'un, purement théorique évidemment, qui serait Tahor, c'est-à-dire d'après le Chesed de l'Avraham, qui serait Malé Mitzvot, fait pas de Averot, ou Bederech Loaya, c'est-à-dire qu'il est en Israël, aval chadal mila asot a Pesach, mais il ne veut pas prendre part à l'idéal de la libération nationale. Imaginons des gens qui seraient en Israël, qui seraient très regardants sur la pratique du Shulchan Aruch, mais qui ne seraient pas du tout intéressés par prendre part aux événements de libération nationale du peuple juif. Et bien, quelqu'un comme ça, Venichreta anefeshaï mehamea. Heureusement qu'il ne s'agit que d'un cas théorique. On est bien d'accord. On ne connaît pas de gens qui pourraient répondre à cette agdara, à cette définition. Et donc, Pessah Sheni vient nous dire, pour que tu puisses recevoir la Torah, il faut que tu fasses partie du peuple juif. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, Kol Besader, on peut continuer. Et donc, on continue. Et effectivement, il est. Juste après Pessah Sheni, on nous dit que donc on a fait l'inauguration du Mishkan, Kol Tov, Ve'asma, Ve'az, Va'i binso Aaron, Va'yomer Moshe. La Anan commence à bouger et Yalla, on y va. Mais c'est Anan matril lazouz. La Torah n'est plus statique. La Torah devient une Torah de vie. Puisqu'elle est rattachée à l'idéal du peuple juif, eh bien, elle ne peut pas être statique et rester dans des cas purement théoriques. La Torah, elle est vivante. Et je ne le dirai jamais assez, mais c'est la raison pour laquelle, eh bien, la Torah, on ne l'apprend pas des livres. On ne l'apprend pas des livres. Impossible. Parce que le livre ne reflète pas la réalité de maintenant. Le livre reflète une certaine réalité de son époque. Mais si tu veux savoir la halakha, demande à ton rav, qui te connaît, qui connaît sa période, son époque, qui connaît ta situation, et qui donc va pouvoir répondre la halakha, pour de vrai. Oui, la halakha, on ne l'apprend pas des sfarim. C'est très bien d'étudier la Torah dans les sfarim. Mais la Torah dans les Sfarim, tu l'étudies pour avoir une base. Certainement pas pour l'Ifsok Halakha. La Torah Nosa'at. Ine, Zeu. La Torah prend vie. Et une fois que la Torah prend vie, Aziala. Qu'est-ce qui se passe? Balagan. Ah oui, Balagan. Balagan, c'est quoi Balagan? Commence les problèmes. De quel problème parlons-nous? On commence à en avoir un peu marre de manger des toasts. Ça commence à bien faire, cette histoire de manne, là. C'était bien, c'est sympathique, mais maintenant, on aimerait bien manger de la viandasse. Ça nous ferait bien plaisir de manger un barbecue. Ils veulent un barbecue. Nous, c'est bécédère ou c'est l'autre bécédère de demander de la viande? Attention, hein, ils voulaient de la viande kacher, khalak, Arav Marpoud, Arav Lando, ce que tu veux. Hein. Et pourtant, quelle est la réaction de Moshe lorsque les Bnei Israël demandent de la viande? Qu'est-ce qu'ils demandent? Les mecs, ils demandent de la viande. Et Moshe, il dit, bon, Dieu, il demande de la viande. Si c'est comme ça, j'en peux plus, tue-moi. Ah non, c'est pas une blague. Hein. Orgenina arog imatzatichen be'enecha. C'est-à-dire, tue-moi. Voilà, je ne sais pas comment gérer les mecs qui veulent un mangal. Ça suffit, tue-moi. Alors, je ne sais pas, hein, mais il y a eu des événements quand même un peu plus chauds. Quand il y a eu le veau d'or, c'était hautement plus important, plus grave que de demander de la viande. Et pourtant, quand il y a eu le veau d'or, Moshe, il était tout calme, il savait très bien gérer. Là, les mecs, ils veulent de la viande cachère. Et Moshe, il n'en peut plus. Lama. Eh bien, tout simplement parce que lorsque tu reçois la manne, qui pouvait avoir le goût viande autant que tu veux, demander de la viande, zechutzpa. Non, mais maître, Dieu, il te donne à manger depuis le ciel. Toi, tu demandes de la viande. Alors, et puis, évidemment, qu'il rajoute un petit « On se rappelle de l'Égypte, en Égypte, on mangeait bien. » C'est chutzpa. Face à la chutzpa, Moshe, il ne sait pas gérer. Moshe, il ne peut pas gérer la chutzpa pour une raison très simple. Moshe ou Rabbeinu. Rabbeinu ou Mlamed Torah. Vetorah pour l'enseigner, tsarir bochet panim. Et pour l'étudier aussi, pas que pour l'enseigner. Si tu viens avec au shiur, avec déjà toutes les réponses dans ta tête, genre je m'en fous de ce que le rabbin il va dire, moi je sais, t'apprendras rien. Donc Torah, tsarir bochet panim. Un peu d'humilité, ça ne peut pas faire de mal. Moshe, il est cool au Torah, et donc il ne gère pas la chutzpah. Il ne peut pas gérer. À ce moment-là, comme il ne peut pas gérer, alors il dit « tue-moi ». Mais il y a quelqu'un qui va, oui, être tout à fait capable de gérer. C'est qui ce quelqu'un qui va tout à fait être capable de gérer? C'est le Mashiach. « Be'ikvot meshicha chutzpa yazge ». Nous dit le Talmud dans le traité de Sota qu'à l'époque du Mashiach, la chutzpa va jouer des heures supplémentaires. En d'autres termes, le Mashiach, il gère la chutzpa chaval al azman. Il n'a aucun problème avec la chutzpa. Il vient de la chutzpa. Hein?
On le voit avec les enfants.
Ah, Baro, tu as totalement raison. Maintenant, il vient de là-bas. D'où il vient, le Mashiach? Pourquoi je dis qu'il vient de la chutzpa? Pas tout simplement parce qu'il vient de Moav, de Ruth, qui vient de Moav. Et Moav, c'est Chutzpah Gdola. La fille de Lot, elle couche avec son père et elle le dit en plus. Elle appelle son fils Moav, Meav, de papa. Chutzpah Baribwa. Donc le Mashiach, il n'a pas peur de la Chutzpah. Il vient de là-bas, il gère. Semble-t-il que c'est là hein, le Yesod, et ce n'est pas une blague, le Yesod amok du fait que Bedor Ageoula, lorsque Am Israël, il veut fêter son arrivée dans le Yemot HaMashiach, c'est-à-dire dans la Géoula, eh bien, il décide que l'événement principal, ce sera un mangal. C'est l'ostam que Am Israël a décidé que Yom HaAtzmaout, il y aura un mangal, et pas dans les autres fêtes. C'est-à-dire, tu as des fois des mecs qui font un mangal tout le temps. Mais en termes de célébration nationale, le fait que le peuple juif ait décidé qu'à Yom HaAtzmaout, plus que n'importe quand, ce soit Bassar Tsaloui, Kanyere Zelostam. Zetikoun de ce que nos ancêtres ont demandé de la viande dans le désert, qui là-bas était Chutzpa, mais qui aujourd'hui est Gilouy, Gdusha et Liona. Donc, une fois qu'on a dit ça, tout va bien. Seulement Moshe, il n'est pas capable. Donc, Dieu il dit à Moshe, pas de problème, choisis 70 personnes et on va les former, toi et moi, pour qu'ils puissent alléger un petit peu le boulot. Pas de problème, Moshe choisit 70 et ils vont devenir les lieutenants de Moshe, ceux qui vont l'aider. Mais ils ont tous le même problème. Leur Torah, leur névoa, elle leur provient de qui? De Moshe. Donc là où Moshe, il a des problèmes, eux, ils ont les mêmes problèmes. Et donc, la Torah nous dit qu'il y a tout d'un coup deux mecs qui sont connectés piratement au Wi-Fi. Et tout d'un coup, on nous parle de Eldad et Medad chez Mitnabim Bamachane. Ils sont connectés au Wi-Fi Nevoa de Moshe sans la permission. C'est-à-dire que leur prophétie à eux, à Eldad ou Medad, elle ne vient pas de Moshe. Elle vient d'où ? Elle vient de l'intériorité du Machane. Shnei Anashim Mitnabim Bamachane. C'est-à-dire que leur Nevoa à eux, à Eldad ou Medad, elle provient du peuple juif, pas de la Torah de Moshe. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à dire, à prophétiser là où Moshe s'arrête. Et c'est pour ça que Eldad et Medad, ils disent quoi ? Ils disent deux prophéties. Emnibou aliske Gog ou Magog, qui est la guerre du Mashiach, et ils ont dit Moshe met ou Yoshua Machnis. Moshe va mourir et c'est Yoshua qui va nous faire rentrer en Israël. En d'autres termes, il montre la limite de Moshe. D'ailleurs, c'est qui ? C'est Eldad ou Medad ? Ben, c'est les demi-frères de Moshe. Ouais, les demi-frères de Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous rappelez à l'époque, quand on était en Égypte, il y avait Pharaon, il a fait un décret comme quoi il fallait tuer tous les enfants garçons. À ce moment-là, Amram, chef d'Israël, a décidé que ce n'était pas possible et que donc, bah, il s'est séparé de sa femme pour montrer l'exemple à tout le monde qu'il ne fallait plus faire de bébé. Ouais, mais pendant cette période-là, Yocheved, qui donc vient de divorcer de Amram, n'était pas contente parce qu'elle ne pensait pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a été se marier avec son cousin, Elitsafan Ben Parnach. Et avec lui, eh ben, elle a eu Eldad ou Medad. Seulement après la naissance de Eldad ou Medad, il y a Myriam qui est venue, qui a parlé à Amram, qui a dit « Mais enfin, t'es pire que Pharaon. Pharaon, il condamne que les hommes. Toi, tu condamnes aussi les femmes. » Et là, bah, Amram, il s'est dit « Peut-être qu'il avait fait une boulette. » Il a rappelé Yocheved, « Écoute, chérie, on a peut-être fait une erreur. Écoute, reviens. » Et elle, Yocheved, qui aimait Amram de tout son cœur, eh ben, elle dit « Ok. » Et elle revient. Elle divorce d'Elitsafan et elle revient chez Amram. Et de cette nouvelle union va naître Moïshele. Et je te vois venir. Tu vas me dire que c'est Assour. Assour, Alpi à Torah, si jamais tu as divorcé et que ta femme a été avec quelqu'un d'autre, tu ne peux pas te remarier avec elle. Et si tu faisais ça quand même, ben le fils deviendrait un mamzer. Ce qui veut dire que d'après la Torah de Moshe, Moshe, il est mamzer. Pas mal.
Je vais couper là. Je coupe.
Tu coupes ?
Là, ça y est.
C'est bon ?
Là, c'est dangereux.
C'est ça, hein ? Maintenant, attends.
T'as même
pas besoin de ça. Je te rappelle que Amram, c'est le neveu de Yocheved. Ça aussi, c'est interdit d'après la Torah de Moshe. Ça fait partie des Arayot. Donc, c'est non seulement Mamzer, mais Chayav Mita.
Il va falloir dénouer tout ça.
Ben, je peux te donner comme joker que c'était Lifné Matan Torah. Si c'est avant le don de la Torah, ce n'est pas encore interdit.
Okay.
Ben voilà. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Yesh Betorat Moshe Migbala à Moshe. C'est dans la Torah de Moshe, tu vois que Moshe, il y a un endroit où il ne peut pas aller. Il y a un dévoilement qu'il ne peut pas dévoiler. C'est le dévoilement du Mashiach. Ça, Moshe, il n'est pas là-bas. Ce n'est pas son truc. Son truc, c'est Torah Ba'olam Hazeh. À Mashiach, c'est le boulot du Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on arrive à ce moment-là, et Moshe, il le comprend très bien. C'est pour ça que lorsque Yehoshua vint Nahar, Rashi dit que c'est Gershon, le fils de Moshe, qui vient et qui dit « Hey, Eldad Umedad, Mitrabni Barachamé !» À ce moment-là, Moshe lui dit « Amekane Atali ?» Genre, tu es jaloux pour moi ?« Altidag !» Ou « Miiten kola mashem nevim !» C'est-à-dire, Moshe, il dit « Altidag, je sais très bien que viendra un jour où « kola mashem nevim !» où tout le monde sera prophète et ça ne viendra pas de moi. Là, Moshe, il parle d'une dimension qu'on est en train d'atteindre. On n'a pas encore atteint, mais qu'on est en train d'atteindre. La dimension où la névoie, elle va revenir dans ce monde. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra réaliser les paroles du prophète Yoël, qui nous dit quoi ? Que « Vaya bayom ahou » je donnerai ma prophétie à tout le monde. Ce monde dit Yoël, Ziknechem chalomot yechalmu. Benechem uvnotechem yenabu. Ubachurechem chesionot yechazu. Dit le prophète Yoël que lorsque la névoie sera pour tout le monde, il y aura quand même des différences de niveau. Que plus tu es vieux, moins tu as une névoie grande. Et plus tu es jeune, plus tu as une névoie extraordinaire. Puisque à Zekenim, ils ont le niveau de Chalom. Les adultes, ils ont le niveau de névoie. Enfin, les enfants, les jeunes, ils ont le plus haut degré qui s'appelle Chazon. En d'autres termes, Moshe, il comprend très bien que viendra un temps où il faudra qu'une autre Torah vienne compléter la Torah de Moshe. Ce qu'on va appeler chez nous, Torah Toshel Mashiach, Torah Takabala, Vechadome. Une fois qu'on a dit cela, on dit ok, mais attention, il y a un risque. C'est quoi ce risque ? Ce risque, c'est que tu penses que ce moment où Moshe doit laisser sa place à une autre Torah, eh bien, le risque, c'est que tu penses que c'est arrivé trop tôt. Tu penses que c'est l'heure de laisser la place à quelque chose d'autre avant l'heure. Et là, il y a un risque. Et c'est la dernière partie de notre paracha. Lorsque Myriam va faire du Lashon Hara. Lorsque Myriam va parler, « Va t'edaber Myriam, be Moshe, alodot aisha akushit asher lakach. » Ma karacha. Pourquoi Myriam ? Myriam ! Pourquoi est-ce que j'arrive pas à comprendre ? C'est une tzadika. C'est quoi son problème ? Dit Razal que Myriam, elle avait un grand, grand problème avec Moshe et son rapport avec sa femme. Quel était son problème à Myriam ? C'est quoi son problème à Myriam avec Moshe ? C'est qu'il a quitté sa femme. Myriam, c'est une fan du mariage. Elle dit, je ne suis pas d'accord que tu aies quitté ta femme. Ben non, il a vraiment quitté sa femme. Chez la Lama. Ben, il a quitté sa femme parce que tous les Bnei Israël ont quitté leur femme pour se préparer au Mont Sinaï. Donc Moshe y compris. Mais Myriam également a quitté son mari. Seulement après le Mahamad Ar Sinaï, Dieu il a dit, l'ech est mort l'Ivnei Israël, shuvu lachem lo alechem. Va dire aux Bnei Israël qu'ils peuvent retourner dans leur tente, ça veut dire retourner chez leur femme. Ve'ata Amod, il m'a dit. Mais toi, Moshe, tu restes avec moi. Donc, pourquoi est-ce qu'il a... Ben, il s'est séparé de sa femme concrètement. Parce que Dieu lui a dit d'être en stand-by névoie tout le temps, d'être donc séparé de sa femme. Donc, pourquoi Myriam elle est énervée ? Ah ben tiens. Re la caméra, elle nous lâche. Fantastique, ça. Juste quand il y a le suspense. C'est fou. 2 secondes, encore une fois. C'est pas bien, hein, cette histoire. Nounou. Là, tu as le téléphone, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, il fait. Toi, tu crois que c'est toi qui contrôle le téléphone. Le téléphone, en fait, te contrôle complètement. Bon, l'homme Jeannet, je reviens dans mon histoire. Donc, j'étais en suspense total. Moi, Myriam, elle ne les connaît pas, ces versets. Mais bien sûr qu'elle les connaît. Donc, qu'est-ce qu'elle en veut à Moshe? C'est Dieu qui lui a dit. Mais Myriam nous dit, Tosfot, que Myriam, elle pensait que Bederer Shadam Rotze Leler Sham Molichimoto, que là où l'homme il veut aller, Dieu il l'emmène. En d'autres termes, Myriam, elle dit, je comprends que Dieu il t'a dit de te séparer, mais c'est parce que tu le voulais. Si tu ne l'avais pas voulu profondément, Dieu ne t'aurait pas demandé un truc comme ça. Et là où Tosfot dit que Myriam, elle a eu un problème, c'est qu'elle n'a pas compris la différence entre la névoie de Moshe et la névoie de tous les prophètes. Chez tous les prophètes, il est vrai que leur névoie correspond à ce qu'ils ont profondément à l'intérieur d'eux. Mais dit Tosfot, avale pas Moshe. Parce que de Moshe, on nous dit, ou Moshe, Vaish Moshe, Anav Meod. C'est-à-dire qu'il est complètement un tuyau. Il ne met rien de lui-même dans sa névoie. Donc Tosfot dit, c'est pour ça que Myriam, elle n'avait pas raison. Le Rav vient et il dit, comment ça? Myriam, elle n'a pas lu Tosfot. Myriam, elle ne savait pas ce que Tosfot il dit. Bien sûr qu'elle savait. Donc, pourquoi est-ce que quand même, elle a demandé? Eh bien, nous dit le Rav Kook, c'est parce que Myriam voulait que Moshe s'élève au-delà de son niveau et soit déjà au niveau du Mashiach, c'est-à-dire au niveau où on peut faire revenir l'âme d'Adam Harishon dans ce monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous dit le Harizal que Adam Harishon, avant la faute, il recevait la névoie d'Afka quand il était avec sa femme. Puisque c'est l'unité par excellence et que c'est le dévoilement de Dieu par excellence. Seulement depuis la faute d'Adam Harishon, alors, ben non, il y a une séparation entre le moment du Yichoud avec sa femme et le moment de la névoie. Myriam, elle voulait que Moshe soit déjà capable de redévoiler la Neshama de Adam Harishon. Ce n'était pas le moment. C'était totalement vrai, mais ce n'était pas le moment. Et donc, elle reçoit la tsaraat. La lèpre, c'est lorsque tu flirtes avec un niveau qui n'est pas le tien. On dira même, du Harizal, qu'un jour, alors qu'un malach lui avait dit en rêve qu'il va devoir le prix de tous les secrets de la Kabbalah qu'il dévoile, et un jour, il a vu un en plein milieu d'un chiour, un corbeau volé au-dessus de sa tête. Et il a compris à ce moment-là que son fils venait de mourir. Et il a vérifié, effectivement, c'est le cas. Et il a compris que son fils était mort à cause des secrets que lui-même était en train de dévoiler. Que peut-être ce n'était pas le moment de les dévoiler. La Torah, elle a besoin d'être au service du peuple juif, mais elle a besoin également que le peuple juif, eh bien, la fasse vivre au quotidien pour pouvoir passer de l'étape de Torah Moshe à l'étape de Torah Mashiach. La fin de la paracha de Baalotecha nous donne l'espoir de cette Torah Mashiach. Certes, ce n'était pas encore le moment à l'époque de Myriam et de Moshe. Avalayom, Zé Azman. Zéazman. Et je vais vous dire mieux que ça. Cette histoire du corbeau et du hari, lorsqu'il y a eu le décès du fils du Rav Cherki, je me rappelle avoir été le voir quelques mois plus tard et lui dire à Rav, depuis que Shalom est parti, je ne peux pas m'empêcher de penser un truc et il faut que je vous le dise. Et donc, je lui ai dit, voilà, vous vous rappelez que vous nous avez enseigné cette histoire du Harizal, du corbeau? Je ne peux pas m'empêcher de ne pas y penser. Et il m'a répondu, Tovata Amarta. Et quelques années plus tard, l'année dernière, il m'a dit, à la Askara de son fils, il m'a dit, lo, behemet lo, behetsem zelokar, qui behemet igia azman. qui Behemet Igui Azman de dévoiler ces secrets-là que le Rav Kook a commencé à dévoiler. Donc mon fils, ce n'est pas à cause de ça. Mon fils, c'est autre chose. Behemet Igui Azman. Igui Azman de cette Torah Gdola qui permet de réunir l'âme de Moshe et l'âme du Mashiach. Lorsqu'on aura réussi à le faire à 100%, alors Yiten Hashem, Kol Am Hashem, Nevi'im, Vezeye, Kanire Bedorenu, Bimera Beyamenu. Amen.
Amen.
Et pourquoi la tzara'at, c'est parce que tu n'étais pas au bon moment, j'ai pas compris.
Non, la tzara'at, la tzara'at.